Europe 1.
Europe 1, 13h-14h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour, je reçois Christiana Reali et Alison Paradis, qui jouent en ce moment au Bouffe Parisien le chef-d'œuvre absolu de Tennessee Williams, Un tramway nommé Désir, mis en scène par Pauline Susini, avec, dans le rôle que tint Marlon Brando, Nicolas Avinet. Bonjour et bienvenue à
bonjour,
toutes les deux.
Bonjour. Bonjour.
Alors, Christiana Reali, Alison Paradis, en 1948, Tennessee Williams reçut pour Un tramway nommé Désir le prix Pulitzer, et Marlon Brando, qui créa la pièce à Broadway, fut auréolé d'une gloire immédiate qui devint planétaire quand Elia Kazan, en 1952, fit de cette pièce un film de légende, lourd de sensualité, en filmant Brando bien sûr, mais aussi Vivien Leigh dans un personnage de femme bouleversant, aux abois, une femme déclassée. Or, Christiana Reali, eh bien, figurez-vous que j'ai retrouvé une interview que vous avez donnée il y a 17 ans de cela au Figaro. Mais oui, elle écarquille les yeux. Une interview dans laquelle vous donniez la liste de vos films préférés et vous citiez Un tramway nommé Désir. Donc ce rôle de femme ne pouvait pas vous échapper.
C'est vrai que je voulais le jouer et on me disait toujours que j'étais trop jeune pour le jouer. Je proposais à des metteuses en scène et metteurs en scène. Et on me disait, mais t'as le temps. Bon, donc maintenant, j'ai moins le temps. Donc voilà, je l'ai joué. Et c'est vrai que c'est pour moi un chef-d'œuvre. Et j'ai fait 4 Tennessee Williams, mais j'ai toujours voulu faire celui-là. Les trucs un peu bavards, où on refait la vie, on refait le couple, on refait tout ça, ça m'ennuie un peu. Non, mais c'est vrai, ça m'ennuie souvent à voir et même à jouer.
Et là, on est dans les méandres de l'intime.
J'aime les histoires.
Avec Tennessee.
Dans l'intimité, puis les secrets, les sentiments.
Alors, j'imagine, Alison Paradis, que vous connaissez parfaitement ce film d'Elia Kazan. Est-ce qu'il fait partie des classiques du cinéma hollywoodien que vous regardiez avec vos parents quand vous aviez 10-12 ans?
Oui, alors les classiques, je les regardais plus avec ma grande sœur, mais oui, ils faisaient partie des films que je regardais et qui m'avaient déjà à l'époque fascinée. Comme vous le disiez, Marlon Brando, c'était ce côté très charnel. En fait, ça transperçait l'image, je trouve. J'aurais adoré voir une captation de la pièce, parce que je pense que ça devait être complètement fou aussi de le voir être comme ça, très animal sur scène. Et pour rebondir sur ce que disait Christiana, ce que je trouve très intéressant, moi, dans cette pièce et dans Tennessee Williams aussi, de façon plus générale, c'est le côté très les pieds sur terre, quoi.
Mais il y a quand même les héros, les personnages se cognent au réel.
Ils sont très, très là, quoi. Ouais. Ils se cognent au réel, ils se cognent à leur univers, ils se cognent à la chaleur, à leurs conditions sociales. Et c'est très présent, et c'est très présent dans la mise en scène de Pauline Susini.
Alors, des névroses, de la moiteur, de la sensualité, bien sûr, et puis de la tragédie. On est dans la Nouvelle-Orléans de l'après-guerre. Alison, par exemple, c'est vous qui vous collez à l'exercice du pitch d'Un tramway nommé Désir.
Ça, c'est pas sympa, je suis nulle en pitch.
Alors, toutes les deux.
En fait, c'est une pièce, on peut raconter cette histoire en commençant par tous les personnages. On peut dire, c'est l'histoire d'une sœur qui reçoit son autre sœur un peu désaxée.
Il y a 4 prismes
Mais en fait, en gros, c'est une sœur héritière déchue va retrouver son autre sœur à la Nouvelle-Orléans. Son autre sœur a quitté la maison et elle se retrouve dans un appartement un peu plus, évidemment,
modeste.
Et donc, elle est étonnée de retrouver sa sœur dans cette classe sociale-là, qui a épousé un homme par amour, un Polonais, et un ouvrier, et qui ils sont dans un tout petit appartement, et ils vont devoir vivre presque...
Cohabiter
dans un espace réduit.
Et le huis clos va devenir vénéneux.
Et ça va devenir vénéneux, voilà.
Oui, dans une promiscuité...
Jusqu'à sombrer.
Étouffante, quoi.
Alors... On parlait tout à l'heure justement des méandres de l'intime dans l'œuvre de Tennessee. Il se penche souvent sur le cheminement de la folie chez ces personnages. Faut dire que un drame dont il ne se remettra jamais, effectivement, infuse l'œuvre de Tennessee Williams à la fin des années 30. Rose, sa sœur adorée, est déclarée schizophrène et est internée dans un hôpital psychiatrique sur décision de sa mère. On pense en fait à Camille Claudel parce que simplement elle a osé dire que son père avait voulu abuser d'elle. Et en 1943, Rose sera lobotomisée. Oui, voilà, oui. Toujours sur décision de la mère. Tennessee Williams est au désespoir. Toute sa vie, il sera fasciné donc, par les mécanismes qui déconnectent un individu de la réalité. Donc, vraiment, la folie, elle rôde dans toutes ces pièces. On ne sait jamais si elle est réelle ou si c'est un genre de menace, cette folie, non ?
Mm-hmm. En fait, c'est très autobiographique. Toutes les pièces de Tennessee Williams sont... La Ménagerie de verre, c'est celle qui est le plus autobiographique. Et c'est l'histoire de cette sœur, justement, un peu schizophrène ou avec un autisme. Je ne sais pas, on ne sait pas trop à l'époque ce que c'était. Et quand il part pour un peu vivre sa vie, la mère profite et l'interne et elle se fait donc lobotomiser. Et il ne s'en est jamais remis de ça, de ne pas avoir pu empêcher ça.
C'est ça.
Et donc, les femmes sont quand même vraiment les personnages souvent cruciaux dans les œuvres de Tennessee Williams. C'est pour ça que je l'aime aussi.
Et les victimes,
mais c'est les conditions des femmes. Donc là, par exemple, c'est l'emprise, c'est la peur de vieillir, c'est la folie, la violence des hommes faite avec leurs femmes, le machisme un peu ambiant de cette Amérique. Donc c'est très actuel, finalement, c'est très moderne.
Parce qu'on est dans l'Amérique de la fin des années 40, voilà.
Oui.
Et puis dans la Nouvelle-Orléans, qui est une Amérique, on va dire, vraiment profonde. Voilà. Mais alors, s'il y a un personnage qui est quand même plus apte au bonheur dans Un très moyen homme et désir, c'est celui que vous interprétez, Alison Paradis.
Oui, le personnage de Stella est très solaire, elle l'appelle mon étoile, elle est hyper ancrée dans sa vie et elle est heureuse de sa condition, elle est heureuse d'être partie de cette belle plantation, d'être dans un petit appartement avec son mari, d'attendre un enfant et de recevoir sa sœur. En fait, elle est dans la joie tout le temps.
Alors, juste avant de faire une pause, Alison Paradis, Christiana oui. Reali, est-ce que la complicité entre comédiens, le temps de l'aventure d'une pièce de théâtre est différente de la complicité entre acteurs, le temps du tournage d'un film ?
Différent, je sais pas, c'est beaucoup plus long en théâtre parce qu'on répète longtemps avant de commencer à jouer et qu'on se met à nu très vite dans des salles de répétition pas éclairées, avec nos humeurs du jour, 8 heures par jour. Il y a quelque chose de beaucoup plus cru, brut, quoi, j'ai l'impression, quand on répète.
De plus frontal.
Oui, et puis après, c'est tous les soirs pendant des mois.
Et puis tous les soirs pendant des mois, c'est ça.
Oui, et au cinéma, il y a des rôles qui viennent que de temps en temps. Alors qu'au théâtre, même les seconds rôles ou les rôles plus petits, ils sont là tous les jours. Mmh. Et aux répétitions, ils sont là tous les jours. Donc, c'est vraiment une troupe parce que c'est ça aussi. Alors qu'au cinéma, même s'il y a la même complicité avec les acteurs avec qui on va jouer, avec qui on va passer 2-3 mois de tournage...
Tout est découpé.
Oui, c'est un peu découpé. Parfois, c'est avec des techniciens. Parfois, c'est la complicité, elle vient de rôles qui sont le plus proches dans le film. Mais là, on est vraiment tous ensemble, tout le temps, tout le temps.
C'est formidable parce qu'on a une heure pour comme ça cheminer en bavardant. J'ai 1000 questions à vous poser. Alors, on fait vraiment une interruption très très courte et on se retrouve tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
C'est l'un des huis clos les plus hypnotiques du théâtre moderne. Christiana Reali et Alison Paradis jouent le chef-d'œuvre de Tennessee Williams, Un tramway nommé Désir, du mercredi au dimanche au Bouffe Parisien. Et elles sont mes invitées. Voilà, c'est chic. Bon alors, Alison Paradis, posons la question inévitable, comme ça on pourra avancer. Pensez-vous que vous auriez choisi ce métier si votre grande sœur, votre aînée de 12 ans, Vanessa Paradis, n'avait pas été un phare loin devant, éclairant la vie avec d'autres possibles?
Mais je ne peux pas répondre à cette question parce qu'elle a été dans ma vie comme ça. Honnêtement, je ne sais pas. J'ai un oncle aussi qui faisait ce métier. J'ai des parents qui ont toujours été fascinés par l'art et la culture en général. J'ai un papa qui était artiste, donc est-ce que je me serais tournée vers ça, quoi qu'il arrive ? Je sais pas.
Sans doute.
Ouais.
En tout cas, s'appeler Paradis fait que vous étiez célèbre avant d'être reconnue, puisqu'aujourd'hui vous êtes reconnue. Mais je voudrais savoir comment on gère cette situation qui est quand même assez particulière.
Bah, moi, je l'ai gérée et je la gère toujours avec calme et tendresse, parce que c'est mon caractère, mais ça m'a jamais ni porter préjudice, ni aider, parce que j'ai, moi, décidé de ne pas en faire état, on va dire. Et puis, les gens qui sont intéressés par ça, bah, tant mieux ou tant pis pour eux, je ne sais pas.
C'est magique comme nom, Paradis.
Ouais, ça, c'est sympa, pour le coup.
N'est-ce pas? Bon, à l'adolescence, Alison, il paraît que vous aviez des dreadlocks, les cheveux rouges, des piercings, et vous avez monté un groupe de rock.
On a tous le droit d'avoir 15 ans.
Ouais, mais bien sûr, voilà. Donc, c'était le chemin pour vous trouver, vraiment. On a tous le droit d'avoir 15 ans. Magnifique, la réponse.
Mais parce que moi, je suis fascinée par l'adolescence, même aujourd'hui, je trouve que c'est magnifique. Je vois mes filleules, je vois... Enfin, je sais pas, toi, t'as des filles qui sont aussi en fin d'adolescence. Je trouve que c'est un état qui est absolument magique et qu'on a beaucoup de choses à dire, qu'on n'a pas forcément le vocabulaire ou le prisme pour le dire. Alors moi, c'est passé par, effectivement, mettre des pattes def, avoir des dreadlocks, des piercings, écouter du hard rock beaucoup trop fort. Et puis, au fur et à mesure, les choses se sont affinées et je me suis rendu compte de ce que j'avais envie de dire et de la manière dont j'avais envie de le dire.
Bien sûr.
Mais ce moment-là, je le revivrai avec joie. Et là, j'ai hâte d'accompagner mes enfants aussi dans cette période que je trouve absolument magique, l'adolescence.
Ouais. Quand il n'y a que deux enfants dans une famille, mais que l'écart d'âge avec l'aîné est de 12 ans, et en plus une aînée qui est happée extrêmement jeune, à 14 ans et demi, par une carrière qui forcément l'arrache à l'univers familial, on peut dire qu'on grandit presque en fille unique.
Oui et non. Enfin, oui, mais j'ai toujours. Enfin, ma sœur a toujours été très présente, et puis mes
Bien
parents
sûr.
Ont élevé aussi mon cousin. Alors du coup, j'avais un
petit frère.
Un grand frère.
Ouais. Un grand frère.
Ouais, c'est ça. J'ai pas eu le sentiment d'être élevée en fille unique. Non.
Après le bac, vous avez commencé à étudier l'histoire de l'art à la Sorbonne, à Alison Paradis. Vous avez pris des cours d'art dramatique. Et puis, soudain, vous vous êtes lancée. Voilà. Est-ce que vous pensez que, juste à ce moment-là, une deuxième fille dans la lumière, ça a pu faire un peu peur à vos parents ?
Oh non, enfin, je me suis jamais posé la question comme ça. Et je pense qu'ils se la sont pas
posée non plus.
Après, je pense comme tout parent, on a envie que ses enfants soient heureux et qu'ils choisissent la bonne voie qui les épanouisse, quoi.
Vous étiez donc à la Sorbonne, étudiante en histoire de l'art. Il y a eu un déclic pour que soudain l'aiguillage, hop, change et se fasse. Ou bien, j'imagine que vous en rêviez depuis longtemps, mais
non,
qu'est-ce qui fait que soudain on officialise ?
Je faisais les deux, en fait. Je prenais des cours de théâtre, des cours de danse, et puis j'avais envie de gagner ma vie. Donc en même temps, je travaillais dans des restos, je gardais des enfants, j'ai été traductrice dans une école d'anglais. Enfin, j'ai toujours fait mille trucs, et au bout d'un moment, l'histoire de l'art, ça, c'était en trop, j'avais plus le temps de tout. Et donc j'avais vraiment envie d'essayer d'aller au bout de ça, en me disant, bon, si ça ne fonctionne pas, je reprendrai mes études d'histoire de l'art.
Mais ça a fonctionné. Alors vous, Christiane Arelli,
on va pas refaire.
Vous avez...
Parce que ça fait beaucoup plus loin, moi. J'ai fait des études de droit, moi.
Voilà. Au début, pareil. Vous avez d'abord quitté le Brésil à l'âge de 9 ans, en suivant votre père journaliste politique, qui était menacé par la dictature. Et vous avez grandi en région parisienne, entourée de 3 sœurs. Alors voilà, ce n'était pas les 5 filles du docteur Marsh.
Oui, les 4.
C'était les 4 filles, professeur Reali. Qui parlait français à la maison ?
Personne ne parlait français. Ma mère, elle avait eu une petite initiation au français, parce que dans les écoles au Brésil, la culture française, c'était le summum. Donc, dans les collèges de jeunes filles, à l'époque, c'était vraiment la langue pour la bonne éducation. C'était apprendre le français plus que l'anglais ou une autre langue. Donc, ma mère avait des petites notions de français. Mais mon père est venu 3 mois avant nous pour faire un stage à l'Alliance française de français. Et il avait un assistant qui travaillait avec lui, qui traduisait un peu les journaux, la presse et tout, quand il a commencé à bosser. Et nous, est arrivé un petit peu après, mais non, personne parlait français, en fait.
T'es 100% brésilienne, en fait.
Mais
je pensais que t'étais franco-brésilienne.
Ah oui, non.
Parce que t'as zéro accent et tout, c'est
parce que je suis venue, j'avais 9 ans.
Ouais, mais...
Il y a 20 ans.
Regarde, tu vers qui.
Elle aurait pu, pu garder petite musique.
Mes parents, ils ont beaucoup d'accent.
De la langue brésilienne.
Alors moi, j'ai fait du théâtre, j'étais à l'école, enfin... Ouais.
Il paraît d'ailleurs que votre maman vous a amené à des cours de théâtre pour gommer le plus possible l'accent brésilien, c'est ça ?
En fait, elle avait trouvé un flyer d'un cours de théâtre au Théâtre des Champs-Élysées, du cours Anne Florange, je me rappelle très bien, et qui disait, le mercredi et le samedi, venez apprendre. Elle voyait bien qu'on aimait bien se déguiser, faire des pièces de théâtre à la maison. Et elle nous a mis toutes les trois aînées, dans ce cours, parce qu'il y avait études de texte français et correction d'accent. Et donc, elle dit, voilà. Comme nous, on est venus pour rester 1 an, 2 ans, 3 ans max, elle s'est dit, on va profiter, on profite de tout.
Alors, les 3 sœurs ont fait du théâtre, mais il y en a une qui est devenue comédienne.
Oui.
Une seule.
Oui, oui. Au début, c'était pour le plaisir qu'on faisait ça. Et moi, j'ai continué. Mes sœurs, elles ont arrêté au bout d'un an ou deux. Et moi, j'ai continué ce cours jusqu'à 16 ans. Après, j'ai fait les clubs théâtre du lycée Molière. Enfin, je faisais les clubs théâtre comme. Et puis, quand je suis rentrée à la fac, au bout de 2 ans, je voyais vraiment que je m'ennuyais. J'adore le droit. Je trouve ça extraordinaire, mais c'était pas pour moi. Je me suis inscrite au cours Florent.
Vous êtes inscrite au cours Florent. Et c'est l'époque, en fait, où votre père, qui paraît-il rêvait pendant toutes les années qu'il a passées à Paris, rêvait de retrouver sa terre natale. C'est l'époque où il a fait ses valises pour retourner au Brésil et vous avez refusé donc de le suivre.
Non, en fait, il y a eu un moment donné, parce que tous les ans on rentrait. C'est-à-dire comme beaucoup de réfugiés, enfin il n'était pas réfugié mais il était dans cette situation, il disait on vient pour 2 ans et tous les ans il rajoutait une année.
Comme un fantasme, le fantasme du retour.
Mais le retour. Et d'ailleurs, il y a une pièce très jolie qui s'appelle 4211 kilomètres. Ça parle de ça aussi. C'est des Iraniens, mais ça parle de ça aussi. C'est-à-dire, tous les jours, on était élevés pour rentrer. Donc, il fallait qu'on réfléchisse à ce qu'on faisait pour rentrer.
Mais c'est terrible,
une
ça,
machine
par rapport...
à laver, on réfléchit.
On l'achète ou pas?
Si on la répare, si on en achète une nouvelle, parce qu'on rentre.
Et pour l'amitié qui est
très
importante
mais
quand
oui.
on est ado, et les premières amours.
Bah alors, c'est ça. Donc, il y a eu un moment donné, quand j'ai eu la classe libre, j'avais un amoureux en plus à l'époque, déjà sérieux. Je travaillais dans une petite boutique pour me faire un peu de sous. Je me suis dit, il rentre. Ça faisait déjà 13 ans qu'on était là. Je me suis dit, il rentre, mais moi, je ne rentre pas. Je ne paye pas l'école, donc je n'ai pas besoin de lui demander des sous à mon père. J'ai un petit job, j'ai un amoureux. Voilà, j'ai eu mon bac.
Alors,
voilà.
Il faut expliquer, vous ne payez pas l'école parce que la classe libre, bien sûr, la plus prisée, était celle qui réunissait les plus doués, allez, on va le dire, du cours Florent, qui étaient pris donc gratuitement parce qu'on savait que leur vie se ferait devant les caméras ou sur une scène.
Oui, c'était aussi pour aider ceux qui n'avaient pas trop les moyens de payer les cours et qui avaient du talent, de ne pas s'empêcher de faire du théâtre. C'était une très bonne initiative, je pense, de François Florent. Qui, il dit, s'il a du talent, il peut pouvoir rentrer travailler.
Mais alors, Christiana Reali, interrompre des études de droit pour s'inscrire au cours Florent, c'est quand même un pari assez fou sur l'avenir, un pari aussi magique que fou. Y a un événement qui a motivé ce changement d'aiguillage radical ?
Oui, je pense que jusqu'à ce que je décide de ne pas rentrer au Brésil, je faisais du droit. Et le jour où j'ai décidé, je me suis dit, je vais m'inscrire au cours Florent, je vais faire la classe libre. Si je l'ai, là, j'arrête tout et je fais ce que j'ai vraiment envie de faire. Parce que le droit, je le faisais parce que c'était quelque chose que je pouvais continuer au Brésil si on rentrait. Il y avait ce culte du retour qui était tout le temps chez nous, quoi. Qui a été même quand j'ai eu mes enfants. Parce que quand j'ai eu mes enfants, mes parents, c'est très particulier, hein. Ils disaient, mais comment tu vas les appeler? Tu les appelles par un nom qu'on puisse prononcer au Brésil. C'est un peu ça. Je dis, mais papa, maintenant, je suis mariée avec un Français. J'ai des enfants français. Donc, il dit, on sait jamais.
C'est hyper touchant. Je trouve ça hyper touchant.
Pas. Mais c'est hallucinant. C'est assez. Et c'est pour ça qu'il y a des. Enfin, c'est particulier. C'est particulier. Et puis après, quand il est tombé malade, qu'il a voulu rentrer pour sa retraite et qu'il est tombé malade, il a été soigné au Brésil. Malheureusement, il est mort là-bas. Mais pendant ces années où il était soigné, opéré là-bas, il ne pensait qu'à une seule chose.
Revenir en France.
Revenir en France. Alors qu'il avait tout préparé pour sa retraite au Brésil, son appartement, qu'est-ce qu'il ferait et tout ça. Il voulait penser qu'une seule. Il adorait la France, hein, de toute façon.
On fait une pause très courte et on retrouve tout de suite Christiana Reali et Alison Paradis qui sont en ce moment sur la scène du théâtre des Bouffes Parisiens pour la pièce de Tennessee Williams, Un tramway nommé Daisy. A tout de suite sur Europe 1. Juste avant de retrouver Alison Paradis et Christiana Reali, on écoute un pur chef-d'œuvre de Police, Every Breath You Take. Since you've gone, I've been lost without you. Fred et Sting, époque Police, Every Breath You Take.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 13h, 14h, Isabelle Morizet.
Un thriller psychologique. Un thriller, je l'ai bien dit, comédie française, hein, vraiment. Une comédie dramatique, en tout cas un sacré voyage dans les méandres de l'intime. Voilà ce qu'est la pièce de Tennessee Williams, à Tramway nommé Désir, que jouent Christiana Reali et Alison Paradis au Théâtre des Bouffes Parisiens face à Nicolas Alviné qui reprend le rôle, mon Dieu, culte de Marlon Brando. Voilà, dans ce chef-d'œuvre de Tennessee. Alors, Christiana Reali, on disait à l'instant que, déjà on a parlé du Brésil et c'était magique ce que vous nous racontiez, mais on disait à l'instant que pour préparer la fameuse classe libre du cours Florent, vous n'avez pas suivi vos parents qui fantasmaient le Brésil et rêvaient d'y retourner. Effectivement, votre destin s'est joué à cette époque-là. L'étudiante en droit s'est transformée en comédienne et la comédienne a rencontré au travers de son professeur au cours Florent, Francis Huster, le futur père de ses enfants. Alors sur le papier, tout ça est parfaitement limpide et magique, mais à vivre. Le regard des autres au cours Florent, est-ce que parfois c'était compliqué à supporter?
Alors j'étais plus au cours Florent. Hein. J'ai rencontré Francis, il était mon prof, enfin un de nos profs au cours Florent. Mais l'histoire a commencé une fois que j'étais plus au cours Florent.
Mais on sentait, c'était... paraît-il d'après, oui, tous les comédiennes en, oui, fait, oui, qui étaient là, qu'il était fou d'amour pour vous, même s'il retenait ses sentiments.
Ah, oui.
Et même, voilà, si l'histoire d'amour ne s'était pas enflammée, n'avait pas en fait pris vie. Donc
non,
on,
vrai,
devait,
non,
bien sentir qu'il se passait entre ces deux-là quelque chose de tout à fait singulier.
Écoutez, je ne sais pas, il faut leur poser la question, mais en tout cas, après, c'était assez, une fois que l'histoire a commencé et dévoilé, c'est vrai qu'ils n'étaient pas très tendres. Enfin, c'était pas facile parce que faut. Enfin, moi, je ne comprenais pas le problème, mais il y avait sûrement un problème d'être la copine de Francis, c'est sûr. C'était mon prof. En plus, il était très courtisé à l'époque. Il était le célibataire que personne n'arrivait à choper.
Enfin, voilà.
Donc,
impétueux et flamboyant.
Oui,
le et jeune
puis
premier,
fou de théâtre.
Voilà.
Voilà. Et puis en plus, il montait une troupe. Enfin, donc on jouait beaucoup
tout
ensemble.
Tout le monde le comparait, Francis Huster, à l'époque, à
Gérard
Philippe.
Oui, oui, oui. Oui, c'est vrai. Et donc, voilà. Donc, c'était un peu pas très bien vu, je pense, par les élèves, par les jeunes comédiens et comédiennes. C'est quand même une élève qui était avec un prof, quoi. Même si on n'était plus en cours. Mais...
Alors, comme dit le poète brésilien, Vinicius de Moraes, oui, tant qu'à faire, je vais chercher Vinicius
bien
de Moraes.
Sûr.
Voilà, l'amour est éternel tant qu'il dure.
Oui.
Alors, sur scène, vous serez sa Célimène dans Le Misanthrope, je parle de Francis Huster, vous serez son infante dans Le Cid, vous serez son Ophélie dans Hamlet, mais vous finirez par ressentir qu'une collaboration aussi fusionnelle empêchait quand même peut-être les autres metteurs en scène de vous approcher. À un moment donné, vous avez ressenti ça?
Oui, en fait, je me suis rendu compte très très vite que les gens ne me voyaient pas comme comédienne tant que je jouais avec lui. C'était très particulier aussi. Et je pouvais jouer Ophélie dans Hamlet. C'était comme si j'étais pas légitime.
C'est-à-dire
et
que les critiques ont toujours été dithyrambiques,
pas toujours.
Mais les metteurs en scène ne venaient pas à,
oui,
vous.
C'est-à-dire que alors les critiques, elles étaient parfois dithyrambiques, parfois moins. Enfin, après, c'est normal. Enfin, c'est comme tous les spectacles. Mais quand même, il y avait un côté, voilà, comme si j'étais la femme d'eux. Et que moi, personnellement, je ne voyais pas le problème, mais apparemment, les gens, ça les empêchait de quelque chose, je ne sais pas. Et il a fallu que je sois nommée une fois au Molière pour...
Pour que ça calme tout le monde.
Avec lui, hein. C'est-à-dire, oui, que ce n'était pas, oui, une pièce de lui, c'était une pièce de Bernard Murat, Dieu pour violon seul,
oui,
pour que les gens se détendent un peu. et on a commencé à me proposer justement un Tennessee Williams, ça marche,
voilà,
pas. Alors qu'il avait une troupe à ce moment-là, où il y avait 5-6 acteurs avec qui il travaillait systématiquement.
Mais là, ça ne posait pas de problème.
Mais ça ne posait pas de problème.
Je trouve ça très énervant, pardon, de l'extérieur,
bah oui,
mais je trouve ça fou, en fait, parce que dans l'autre sens, ça ne se serait jamais posé la question. Et
oui,
tu dis, le chemin, il est encore compliqué, quoi.
Ah bah oui, surtout que j'avais 20 ans
de moins.
Parce
que t'es OK, t'es la,
voilà,
femme d'eux, mais ça n'empêchait pas que tu faisais ton rôle tous les soirs et merveilleusement bien.
Oui, et qu'il y avait des comédiennes ou des comédiens des écoles, enfin, des élèves qui jouaient aussi avec nous et qui n'avaient pas le même problème.
Bien sûr.
Donc c'était juste parce que...
Alors vous savez, on pense en fait à Emmanuel Seigné, épouse de Roman Polanski, qui effectivement est pleine d'un talent magistral et les metteurs en scène souvent la regardent comme l'épouse de... Voilà.
Oui.
On pourrait parler de Woody Allen.
Bien sûr.
N'est-ce pas ? C'est pareil. Bien sûr. Mais bon, vous, vous avez donc décidé à un moment donné vraiment de gagner votre indépendance artistique, Christiana Reali. Et vous dites qu'il y a un contrat de pub qui vous a grandement aidé à cela.
Non, il y a eu aussi parce que j'étais égérie de la marque Lancôme pendant 4-5 ans. 6 ans même, je crois. Et c'est vrai qu'il y a une année où j'ai fait une série télé Terre Indigo. J'ai joué avec Jean-Paul Belmondo au théâtre et j'étais égérie de cette marque. Et donc, du coup, tout à coup, j'étais complètement en très peu de temps, alors que j'étais vraiment la femme de 6 mois avant.
Tout le monde vous désirait.
Bah, c'est pas que tout le monde me désirait, mais tout à coup, j'avais toute seule une pièce avec Jean-Paul, un contrat de pub et puis une série qui a cartonné sur TF1. Donc, tout à coup, ça a changé aussi, parce que voilà, ça a changé à ce moment-là. Après, moi, je ne regrette rien, parce que j'ai tellement appris mon métier pendant les 5 années à côté de Francis, à jouer, parce que c'est un fou théâtre, donc tu répètes la journée, tu joues une autre pièce le soir, pendant 5
quand
ans, j'ai pas eu de vacances.
Quand on n'en joue pas deux dans la journée, quand comme à la Comédie française.
Et avec des Robert Hirsch, des Daniel Lebrun, des Michel Aumont, enfin, j'ai appris tellement de choses. Aujourd'hui, je me sens, sur un plateau, je me sens, mais comme un... Je sais pas, comme
chez
un...
vous.
Bah ouais, voilà. J'ai l'impression que rien ne peut m'arriver, quoi, en gros.
Et Alison Paradis a un grand sourire, voilà, qui surligne tout ce que vous dites, justement.
Parce que c'est vrai. D'accord.
Alison Paradis, vous rêviez tellement, en fait, d'indépendance pour pouvoir vous adonner totalement à cette passion qu'est le théâtre, que pour payer vos cours, justement, plutôt que de demander éventuellement une aide ponctuelle à vos parents, vous avez préféré travailler. Alors, vous nous l'avez dit, vous avez été serveuse dans un restaurant, vous avez donné des cours d'anglais, vous avez fait plein de petits boulots.
Moi, j'ai fait plein de trucs. Mes parents ont toujours été derrière moi et que je savais très bien que je pouvais
d'accord.
les aider. Hein.
C'est
mais
ça.
Mais c'est mon tempérament, en fait.
C'est votre tempérament.
Oui. Oui, et puis... Enfin, toi, t'as appris plein de trucs, tu vois, dans les plateaux, ce que tu disais. Bah, moi, l'école de la vie, j'ai trouvé que c'était assez génial aussi de pouvoir galérer, en chier, pas réussir, aller travailler très tôt le matin, enchaîner 3 boulots dans la même journée. Je regrette absolument pas d'avoir fait tout ça. J'ai trouvé ça, pareil, hyper formateur, en fait. Et puis de rencontre de gens, en fait, de rencontrer des gens tellement différents tout le temps, avec des problématiques différentes aussi tout le temps. Par exemple, quand j'ai été traductrice dans l'école du Ritz Escoffier, mais c'était magique de me retrouver à côté de grands chefs qui donnaient des cours de cuisine à des gens et moi de devoir traduire en anglais. Mais bien sûr que mon travail, c'était de traduire, mais c'était tellement magique de les voir cuisiner. Enfin, je trouve que c'est une expérience qui est magnifique. Je me sens très chanceuse d'avoir eu ça dans ma vie.
Alors, Alison Paradis, au cinéma, vous êtes fait remarquer avec un premier rôle particulièrement éprouvant à jouer hein, dans un film d'horreur intitulé « À l'intérieur », un film sorti en 2007, porté par un binôme féminin absolument hallucinant, Béatrice Dalle et vous. Le film d'horreur, c'est un genre très prisé aux États-Unis, mais plutôt rare en France. Oui. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette expérience ? Parce que souvent, les jeunes actrices aux États-Unis commencent par des films d'horreur. Il y a une espèce de tradition.
Ah oui. Je ne savais pas, c'est vrai.
Oui, mais n'est-ce pas, Alison ?
Non, c'est vrai, c'est vrai. En France, il n'y en avait pas beaucoup. Et c'est vraiment arrivé à un moment où Canal+ a lancé une collection qui s'appelait Les French Frayeurs. Et donc, ils ont produit comme ça 2, 3, 4 films de genre. Et moi, quand on m'a proposé le rôle, ce que j'ai retenu au départ, c'était le scénario hyper bien écrit et 2 rôles de femmes vraiment géniaux. Et 2 rôles de femmes, quoi, qui n'existaient pas parce qu'il y avait un mec... qui n'existaient pas, voilà, elles étaient sur leur propre problématique à elles. Donc ça, j'ai trouvé ça génial. Et ce que j'en retiens, c'est la rigueur, le travail, c'est tu peux pas te louper quand tu fais du genre, quand il y a des effets spéciaux, quand il y a, voilà, c'est vraiment, on travaille tous main dans la main pour que ça fonctionne. Et donc c'était magnifique d'avoir ça comme premier rôle pour
et jouer apprendre. Avec Béatrice Dalle.
Et jouer avec Béatrice Dalle, bah c'est génial. Mais moi j'ai de la chance parce que j'ai quand même souvent dans la vie fait des rôles auprès de femmes, que ce soit Béatrice Dalle, Élodie Bouchez ou là, toi, Chris. Et bah, moi, c'est ce qui me bouleverse le plus. J'adore jouer avec des hommes. Hein. Mais ce que je te disais hier, cette sororité, moi, j'ai vraiment un besoin vraiment fort d'être entourée de femmes. Ma sœur, qui est la mienne, mes sœurs choisies, qui sont les femmes de ma vie, et sans elles, je suis rien. Et les sœurs qu'on me choisit, et je suis tellement chanceuse à chaque fois. Donc, ça me touche vachement. Ouais.
Par exemple, il paraît que vous avez, allez, on va utiliser cette formule, comme marraine de cinéma, Nicole Garcia.
Oui, c'est vrai, j'ai fait mon premier film avec elle jouait ma mère. Et elle m'a vraiment ouvert les bras, mais grand comme une maison, quoi. Et c'est très réconfortant. J'ai fait aussi une tournée avec Fanny Ardant, et qui m'a, pareil, ouvert les bras. Et d'un coup, de me retrouver 3 mois en tournée avec elle, c'était magique. Je trouve ça magnifique d'apprendre d'autres femmes comme ça.
Alors, Alison Paradis, le milieu du cinéma, c'est un univers complexe, qui est mouvant. Même quand un film est tourné, on n'est pas sûr qu'il soit distribué. On a le sentiment que, en fait, Christiana Reali et vous, bien qu'amoureuse du cinéma, vous le regardez de façon assez philosophe, presque aussi philosophe que circonspecte. Parce que vous travaillez beaucoup, beaucoup pour le théâtre, pour la télé. Le cinéma, on va dire, d'une manière plus ponctuelle. Le cinéma, il a ses préférences pour des raisons qui ne regardent que lui. C'est compliqué, le cinéma.
Je ne sais pas si c'est compliqué, je pense que c'est des questions de moment, je ne sais pas ce que tu en penses. Et puis il y a aussi un vrai rapport commercial et financier où on monte des films sur des gens. Et parfois, bah, c'est magique, on arrive à monter un film et vous en faites partie et c'est super. Et puis c'est un succès, alors du coup on peut monter d'autres films avec vous et puis parfois moins. Mais l'important c'est les rôles qu'on nous propose, qu'ils soient à la télé.
Je pense que le cinéma c'est aussi très... Il y a beaucoup de business comme tu dis. Et donc il y a aussi... une question de désir au départ, c'est compliqué, ça dépend pas trop de nous presque. Le théâtre, on peut travailler, c'est artisanal.
Exactement.
On peut être, c'est comme un instrument de musique le théâtre, c'est-à-dire qu'on peut jouer de la guitare, on peut chanter nous tout seul, comme on peut lire des textes, on peut faire une petite troupe entre copains, on peut répéter une petite pièce pour jouer dans quelque part, on ne sait pas où. Le cinéma, c'est quand même quelque chose qui a, il y a un financement, il y a, et donc du coup, et puis tout est bon pour ne pas être choisi ou tout est bon pour être choisi. Enfin, c'est très compliqué, le cinéma.
Je vois ce que vous voulez dire. C'est un vrai alignement ça nous dépasse, quoi.
Ouais. Ça nous dépasse, voilà. Mais après, en ce qui me concerne, quand je me suis inscrite au cours Florange, je faisais donc ce cours Anne Florange dès l'âge de 12 ans, c'est parce que dans ma tête, ça ne venait pas le cinéma. Je me dis, je veux faire du théâtre parce que c'est comme ça que j'ai appris et c'est ça qui m'a donné envie. À l'époque, ce n'était pas évident, on ne disait pas « je vais faire du cinéma ». Donc, il y avait des castings, des choses comme ça, et donc on en a fait un peu, et puis après ça part ou ça part pas. Hein. Mais c'est addictif, la scène aussi. Parce qu'en fait, j'ai toujours « ah là là, je suis fatiguée, là j'ai trop joué, je ne fais pas de théâtre ». Mais très vite, à force de voir les autres jouer et
ça
d'aller
manque,
au théâtre, ça manque.
Ça manque dans le corps, je trouve.
Voilà, et d'y aller le soir, et puis les soirées. Moi, je suis habituée à avoir des soirées 6 mois dans l'année, d'être au théâtre, donc même si parfois je dis oh, j'ai envie d'être chez moi ce soir, j'ai pas envie d'y aller, mais quand même ça, c'est rare, enfin, ça me donne envie de, c'est addictif.
Voilà, deux femmes heureuses. On se balade en compagnie de Christiana Reali et Alison Paradis qu'on retrouve dans un instant, juste après une pause très courte sur Europe 1. Juste avant de retrouver Alison Paradis et Christiana Reali, on s'offre une nouveauté sur Europe 1, Gracieuse, le nouveau titre de Vanessa Paradis et Voyou intitulé Le bal. Écoutez.
Dans une salle sans issue de secours, aux lueurs pâles de la nuit qui cède au jour, se joue le bal de la vie et de ses amours, ceux qui s'effacent et ceux qui resteront toujours.
S'étale, ravissant, insensé, 100 000 âmes qui s'emballent devant mes yeux cloués. Certains dansent, d'autres y pensent, et puis lui qui s'avance en quelques pas de danse, c'est vrai.
J'ai flanché, genoux au sol, on a dansé sous les valses folles.
Cette salle sans issue de secours,
bruyant le bal me rappelle mes amours.
Mon premier fil se confondra d'autres contours,
qu'un coup de cils m'a fait perdre pour toujours.
C'est sans mal, je l'avoue, que déroule sous mes doigts une première cavalière, une deuxième et puis trois.
Je m'emballe et me perds dans cette salle bondée, tourbillonne autant de beauté.
J'y perdrai la tête en vol, aéré seul sous les valses folles.
Mes yeux se figent sur un beau portrait qui semble lassé d'une étreinte trop serrée. D'un geste se dégage, fendant l'assemblée, me rejoint pour une danse à ses côtés. On a dansé des années à perdre la tête. J'en garde encore quelques ampoules assez discrètes, mais souvent les valses se soufflent avant la fin. On est proche et pourtant bien assez loin.
Le bal. Nouvelle chanson, Gracieuse, interprétée par Vanessa Paradis et Voyou. Alors, n'oubliez pas, ce soir et demain, à partir de 20h, eh bien vous avez rendez-vous avec le camarade Jacques Vendroux pour une émission toujours passionnante, le Studio des Légendes. Nous, tout de suite, on retrouve Alison Paradis et Christiane Reali.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 13h-14h, Isabelle Morizet.
Elle nous donne rendez-vous au Théâtre des Bouffes Parisiens pour un tramway nommé Désir qu'elle joue avec Nicolas Alvinet. Je reçois Alison Paradis et Christiane Reali. Chère Alison Paradis, vous confiez, l'opéra est l'un des univers qui me procure le plus d'émotions.
Alors la danse.
C'est la danse, ouais, voilà, ouais. Plus que l'art lyrique. Parce que sinon je me disais, tiens, vraiment le spectre est grand du groupe de rock formé à l'adolescence jusqu'au répertoire lyrique des divas.
Je suis très touchée par l'opéra aussi, mais quand je parle d'opéra, c'est plus de danse classique, contemporaine. C'est vraiment un des arts qui me donne le plus d'émotions au monde, la
au
danse.
Au monde.
Ouais, je trouve ça toujours sublime, la façon de faire passer des émotions juste par le corps. Je suis très touchée. Ça peut me faire pleurer en une demi-seconde. Je trouve ça assez sublime. Ouais.
Vous emmenez votre petit garçon qui a 7-8 ans, je crois, maintenant.
Ah, j'en ai un de 8 ans et un de 1 an et demi.
Voilà, 1 an et demi, c'est moi. Mais celui de 8 ans, est-ce que vous l'emmenez, par exemple, voir des spectacles
de
danse contemporaine?
Tout le temps, je l'emmène partout. Je l'ai emmené dès qu'il avait 1 an, 1 an et demi, voir des spectacles. Parce que je trouve ça... Quand on nous dit c'est pas avant 3 ans, j'écoute pas et je trouve ça beau. En fait, on leur met des images dans les yeux, puis ils en font ce qu'ils veulent, quoi.
Bien sûr, bien sûr. Et il paraît que vous êtes également, Alison Paradis, une habituée des musées, comme le musée d'Orsay. Je ne sais pas s'il a votre préférence, mais...
Il a un peu ma préférence parce que, évidemment, selon les expositions qu'il y a en cours, le musée d'Orsay, je trouve que c'est un lieu en lui-même très chargé et très reposant et apaisant. Il y a un truc qui se passe quand je suis là-bas que j'adore. Mais là, dernièrement, j'ai été voir l'exposition de Sophie Calle au musée Picasso et je me la suis pris vraiment en plein corps, carrément. Quoi. J'ai été... Enfin, je ne sais pas si tu l'as vu.
Je l'ai pas vu, non.
J'ai ressenti des émotions qui étaient complètement folles. J'ai ri, j'ai pleuré. J'ai rarement ressenti ça dans une expo.
Christiane Reali, Alison Paradis, est-ce que à la sortie des Bouffes Parisiens, donc vous jouez un tramway nommé Désir, vous débriefez joyeusement autour d'un petit verre la représentation du jour, avant de chacun retrouver son nid. Est-ce que vous faites ça? Vous avez ce genre d'habitude?
Ça fait partie de la soirée, en fait, débriefer.
Alors, c'est l'after.
Oui, puis il y a des gens qui viennent nous voir, ou même entre nous. On peut aussi se retrouver et boire un coup, parler de ce qui s'est passé sur le plateau et sur des échos qu'on a eus de la pièce et puis sur la vie, même sur nos enfants. Ça fait partie de la soirée théâtrale que j'aime bien, moi. Parce qu'il y a une adrénaline, hein, donc pour faire redescendre tout
ça, c'est ce que j'allais dire.
On ne pourrait pas rentrer directement chez soi.
On pourrait, mais on ne va pas se coucher, en tout cas. C'est comme s'il est 8h du soir pour les gens qui travaillent toute la journée. Ils sont quand même crevés de leur journée, mais ils n'ont pas envie de se coucher à 8h30.
Christiane Reali, avec vigueur, vous confiez « J'ai plus l'âge d'être lisse ». Voilà, on vous a connu dans des rôles qui passaient souvent par la séduction, et maintenant vous avez envie vraiment d'aspérité.
Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, je me plains pas,
j'ai été employée, disons, très vite par mon physique, qui de jeune première, bon, voilà. Et on m'a collé ça. Or, je n'avais pas du tout la... Je trouvais, enfin, les gens qui me connaissent dans la vie, je n'avais pas du tout la personnalité de ce physique-là, vraiment. Mais c'est par là que les rôles me venaient, où on me proposait des choses. Et c'est vrai que quand j'ai commencé...
Alors, quand vous dites « je n'avais pas la personnalité de mon physique », qu'est-ce que vous êtes dans la vie vraie que votre physique ne permet pas forcément de capter ? Vous êtes plus ou moins quoi ?
Non, je pense que je suis quelqu'un qui... J'aime bien rigoler. Quand je me fâche assez fort. Je peux être cassante. Je peux avoir une autre personnalité que de subir...
Donc une femme de tempérament.
Voilà. Dans mes amours et dans mes histoires, ça a toujours été très explosif. Enfin, dans le bon sens, hein, pas dans le sens... voilà.
Est-ce que
grave.
Ça, c'est brésilien ?
Oui, c'est brésilien. Et puis j'aime la fête. J'aime refaire le monde.
Mais alors, vous nous parlez de fête. Et vous nous parlez de tempérament explosif. Mais alors, expliquez-nous, là, d'ailleurs, je ne sais pas comment on prononce, c'est vous qui allez le prononcer, la saudade brésilienne.
Oui, la saudade.
Saudade.
Oui, la saudade.
Bon, alors, la saudade brésilienne, c'est quoi ?
C'est une mélancolie. C'est une mélancolie, mais ça ne veut pas dire être mélancolique. Ça veut dire c'est le manque de quelque chose. Par exemple, c'est le miss you ou le miss de, en anglais. C'est-à-dire, c'est un sentiment, la saudade qu'on a, même quand on est très heureux. Par exemple, j'ai la saudade du Brésil. J'ai la saudade de ma fille qui habite plus à Paris, par exemple. Elle me manque.
Donc, ce n'est pas comme le spleen.
Ce n'est pas le spleen. Il y a un petit spleen, parfois, sur la mélancolie, quand même. Il y a toujours un petit peu de spleen dans la mélancolie. Mais c'est surtout, c'est entre la mélancolie et le manque de... Le fait de... Voilà. Donc, des fois, j'ai la saudade d'un plat brésilien. Ça se dit aussi.
Donc, vous le faites ?
Ben, on le fait. Non, mais voilà, c'est...
Vous cuisinez bien ?
Non, pas du tout. Non, mais ma mère, mes sœurs, tout le monde cuisine très, très bien. Donc, je vais tuer ma saudade chez elle.
Vous faites goûteur. Vous avez la double nationalité brésilienne et française, Christine
Oui, pas encore la française. J'ai la double nationalité italienne.
Mais attendez, depuis le temps.
Mais oui, mais parce que je suis en train de la faire.
Mais c'est hallucinant. Pourquoi toujours pas ?
Non, en fait, c'est parce que j'ai la phobie des papiers. J'ai la phobie administrative et que chaque fois que je commence des papiers, il m'en manque un et je laisse tomber. Donc, je recommence tout à zéro, voilà.
C'est encore un point commun.
Ah oui, voilà, j'ai vraiment une maladie avec ça.
Alison, c'est un prénom qui est parfaitement hollywoodien. Est-ce qu'il vous ressemble, ce prénom ?
Ben, j'ai appris à l'apprivoiser. Quand j'étais petite, je n'aimais pas du tout. Je ne comprenais pas pourquoi je m'appelais comme ça. J'avais vraiment l'impression d'être sortie tout droit d'un sitcom. J'avais l'impression qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et puis j'ai appris à l'apprivoiser. Aujourd'hui, je suis contente de m'appeler Alison.
Mais jamais, puisque je parle d'Hollywood, jamais à aucun moment, Alison Paradis, quand votre sœur Vanessa vivait en Californie, vous n'avez songé à poser vos valises dans ce pays.
J'y ai vécu un peu.
Oui. Ouais. Mais un peu, juste un peu. Et vous êtes rentrée.
Ouais, je sais pas. Ça me manquait, mes amis, qui sont vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, ma vie. Ça me manquait les petits cafés.
Vous manquait.
Ouais, les gens qui râlent, les embouteillages, je sais pas, il y avait un truc... ouais, je sais pas, j'avais envie de rentrer chez moi, quoi.
À quoi rêvez-vous toutes les deux à ce moment précis de vos carrières respectives ? Christiane Ariely, Alison Paradis.
Bah, déjà en 24, qu'un tramway soit un succès magnifique.
Ouais.
Oui, et puis... Et puis, c'est plus des belles vacances aussi, après le tramway.
Non, je sais pas, de continuer sur ce chemin.
Oui,
comme
non,
ça,
en fait, moi j'ai un rêve, c'est de durer, en fait. Ouais. De durer, c'est pas de durer dans le star system, la notoriété, mais de durer pour pouvoir réaliser des rêves, de rôles, de rencontres, enfin de choses qui m'animent et qui me font...
Voilà, quand vous parlez de durer, je me souviens vous avoir en interview sur un plateau de télé, entendu dire « Ah, moi j'adorerais, à l'âge de 86 ans, partir en tournée avec une troupe de jeunes et puis aller boire des verres après la représentation pour refaire le monde. Ça serait génial. »
Mais parce que j'ai fait ça avec Monique Chaumette, la femme de Philippe Noiret. Elle a joué avec moi dans La Rose Tatouée, une autre pièce de télévision que j'avais fait. Et on était partis en tournée. Elle avait 85 ans, je crois.
Oui.
Et elle était en tournée avec nous. Et tous les soirs, voilà, on a dîné avec nous. Elle allait peut-être se coucher un peu plus tôt, parce qu'on était des fêtards. Mais c'était dingue. C'était dingue de...
La passion maintient.
Je trouvais ça génial. Mais
c'est ça qui est magnifique, parce qu'il y a des gens qui éclatent au firmament, et c'est génial aussi pour eux. Mais oui, comme tu dis, ce qui est magnifique, c'est de durer. Et de,
voilà.
Ce que je te disais à l'époque, de poser chaque pierre après chaque pierre. Moi, je
vaut mieux faire ça, je pense, parfois.
Partisan de ça, en fait.
eh bien la route va être magnifique, flamboyante. Voilà, le destin vous aime, il vous le prouve à toutes les deux, Alison Paradis, Christiane Areali. Donc, vous vous emparez du très beau Théâtre des Bouffes Parisiens chaque soir. Alors, je précise, je rappelle, du mercredi au samedi à 20h et en matinée le samedi et le dimanche à 15h30 pour la pièce de légende. Oui, elles sont toutes fantastiques, les pièces de Tennessee Williams, mais celle-là a particulièrement imprimé la mémoire collective. Un tramway nommé Désir, mise en scène par Pauline Susini, avec, dans le rôle que tenait Marlon Brando dans le film de Kazan, et il a même créé la pièce à Broadway, eh bien Nicolas Avinet. Alors merci à toutes les deux.
Et on peut quand même dire qu'il y a Lionel Abelanski qui est exceptionnellement tendre et...
Djibril Pavadé.
Voilà, Marie-Pierre Nouveau.
Marie-Pierre Nouveau.
Et Simon Zampieri.
Et Tanguy.
Ou Tanguy.
Voilà.
Parce qu'ils sont tous absolument exceptionnels et donc c'est important de les citer.
Merci de votre générosité.
Merci
à toutes les deux. Formidable. Et à bientôt.
À bientôt.
À bientôt. Merci.